Il est 12h15. Le journal d'Alexandre Michler.
Bonjour. Le projet d'extension de Jurassica se concrétise à Porrentruy. Le nouveau centre de recherche et de conservation a été mis à l'enquête aujourd'hui. Présentation dans un instant. Les pâturages jurassiens ont souffert des intempéries. Les dégâts sont importants à certains endroits. Et même si le soleil de ces derniers jours donne un certain répit, la situation reste tendue, vous l'entendrez. Elisabeth Baumschneider veut créer un observatoire fédéral de la petite enfance. La conseillère aux États jurassiennes a déposé un postulat en ce sens. L'objectif est de combler les lacunes en matière d'accueil. Et puis nous irons à Tokyo à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques. Nous retrouverons notre envoyée spéciale Émilie Mumenthaler en quarantaine dans sa chambre d'hôtel. Elle nous expliquera les contraintes auxquelles elle est confrontée pour couvrir l'événement. Un après-midi estival au menu météo, quelques nuages seront toutefois possibles, surtout aux franches montagnes, mais rien de grave, rassurez-vous. Le même type de temps est prévu pour demain. Le projet d'extension de Jurassica pourrait donc bientôt se matérialiser à Porrentruy. La mise à l'enquête publique pour le nouveau centre de recherche et de conservation a été publiée aujourd'hui. À terme, ce bâtiment aura comme prévu plusieurs fonctions, Vincent Jacquat.
Oui, la conservation en premier lieu. Les collections de Jurassica pourront y être gardées bien à l'abri et dans de bonnes conditions. Mais ce centre aura aussi une vocation de recherche puisqu'il abritera une salle de conférence ainsi que l'administration scientifique du musée. La vulgarisation, elle, ne sera pas mise de côté puisque le lieu sera semi-public. Mais c'est surtout du côté de l'actuel musée que les visiteurs pourront découvrir les collections puisque le déménagement y libérera un étage entier, ce qui augmentera d'autant le potentiel d'exposition dans l'historique Villa Beuclair. Si personne ne s'oppose à cette nouvelle construction, il s'agira ensuite de détruire le bâtiment voisin de la villa, une maison qui est la propriété du canton. Si le calendrier n'est pas chamboulé, le déménagement dans ce nouveau pôle pourrait avoir lieu dans la deuxième moitié de l'année 2023.
Merci Vincent Jacquat, et cette mise à l'enquête court jusqu'au 23 août. Un projet immobilier d'envergure à basse-cour. Plusieurs immeubles devraient sortir de terre prochainement près du terrain de football du village Vadet. Selon le journal officiel, 4 immeubles de 10 appartements devraient voir le jour à la rue des Longchamps sur 2 parcelles pour un total de plus de 10 000 m². Pour y parvenir, il est prévu de démolir la villa qui est actuellement érigée et qui a abrité par le passé la fondation Pérenne, ainsi que de remblayer l'étang qui s'y trouve. Le projet est en dépôt public jusqu'au 23 août. Des dégâts parfois très importants dans les champs et les pâturages jurassiens. Les fortes précipitations de ces dernières semaines et les différents épisodes de grêle ont laissé des traces parfois conséquentes. Les orages qui se sont abattus ont été très localisés. Le président de la Fondation rurale interjurassienne, Noël Saucy, reconnaît ainsi que les paysans de Develier, de la Baroche, de Cornolles ou encore de Halles ont été particulièrement touchés. Avec les périodes ensoleillées de ces derniers jours, les agriculteurs ont pu se rendre compte de l'étendue des dégâts et ont parfois tenté d'y remédier. Noël Saucy est actif à Develier.
Aujourd'hui, voilà, on arrive dans une période un peu plus propice, une période qu'on attendait depuis un certain temps. C'est vrai qu'on a quand même eu des quantités d'eau énormes, des dégâts qui étaient assez importants dus à la grêle aussi. Et puis ben, on voit qu'aujourd'hui, même aller récolter à des places dans les prairies, on est dans des terrains qui sont encore saturés en eau. Et puis ben, on a aussi un peu la crainte de l'utilisation des machines sur les sols et puis d'encore aller dégrader les sols qui sont déjà pas mal atteints, quoi.
C'est justement le défi actuel de devoir entre guillemets, aller récolter et puis en parallèle de ne pas trop abîmer les sols.
C'est clair qu'on aimerait bien qu'on puisse encore nous garantir quelques jours de boue supplémentaires pour pouvoir encore un peu retarder le travail sur le terrain, parce que ben aujourd'hui c'est vrai qu'il faut qu'on y aille, parce qu'on sait que sur la fin de la semaine ben, ce sera fini, puis ben, c'est quand même des parcelles qui ont été fauchées déjà à la fin mai, donc on est sur des regains qui sont assez vieux, qui ont souffert encore de la grêle, puis effectivement que la croissance est stoppée, donc il ne faut pas les enlever. On a quand même des véhicules qui sont assez lourds, donc aller sur ces terrains qui sont un peu gorgé d'eau, on va les tasser. Et puis si on a une période de sec qui vient derrière, ben c'est des terrains qui viendront croûteux. Et puis on va encore mettre en péril la coupe suivante, parce qu'effectivement, on va tout retarder les repousses par rapport à ça.
Un sujet signé à Michel Léonier en ce qui concerne les céréales. Noël Saucy indique que c'est à la récolte principalement que les agriculteurs parviendront à déceler leur qualité. Mais selon lui, les périodes humides sont très favorables aux maladies dans les champs de céréales. Comment combler les lacunes de l'accueil de la petite enfance en Suisse? La conseillère aux États jurassiennes, Elisabeth Baum-Schneider, demande de créer un outil qu'elle juge indispensable, un observatoire fédéral. Elle a déposé un postulat en ce sens que le plénum du Conseil des États examinera prochainement. Le Conseil fédéral donnera aussi son avis. Les structures d'accueil de la petite enfance sont des affaires communales et cantonales, avec des approches très différentes entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Alors, pourquoi en faire une cause fédérale, Elisabeth Baum-Schneider?
Pour coordonner, pour comprendre où sont encore les lacunes en termes d'accès, notamment à tout ce qui concerne les structures d'accueil pour la petite enfance, que ce soit préscolaire ou parascolaire, on voit qu'il y a une mine d'informations, mais qui sont souvent éclatées.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'en faire une forme d'usine à gaz?
Ça serait bien sûr le risque, mais l'usine à gaz, alors elle existerait déjà aujourd'hui, parce qu'on le voit bien, il y a différentes conférences au niveau cantonal, que ce soit la CDAS, la CDIP, la CDS, enfin toutes ces conférences cantonales qui disposent de certaines informations, mais on n'a toujours pas une cartographie exacte, par exemple au niveau de l'accueil de la petite enfance, après on a au niveau des tarifications, on a au niveau de l'offre à augmenter dans certains cantons ou dans certaines régions. C'est vrai que les enfants n'ont pas de lobby en tant que tel. Hein. Je co-préside avec Philippe Couter, qui est un parlementaire PDC du National Alliance Enfance, parce qu'il y a cette nécessité, cette volonté d'avoir un peu comme un lobby de la petite enfance au niveau national.
On a des propos recueillis par Serge Jubin, Elisabeth Baum-Schneider, qui a bon espoir de faire aboutir son postulat. En plus d'appui à gauche, elle a obtenu les signatures de parlementaires du Centre et du PLR. La Suisse est menacée par une pénurie d'électricité. C'est l'avis de la conseillère nationale Magdalena Martulo-Blocher. Il faut donc poursuivre l'exploitation des centrales nucléaires existantes et à terme en construire une nouvelle, estime-t-elle. Selon les experts, une prolongation de 10 ans serait possible, indique l'élu UDC. 4 centrales nucléaires sont actuellement en service en Suisse, Bessenau 1 et 2, Leibstadt et Gösgen. La centrale de Mühleberg dans le canton de Berne a été mise hors service à la fin 2019. Les dates d'arrêt des autres réacteurs n'ont pas encore été fixées. Réguler les eaux pour réduire l'impact des crues des lacs du pied du Jura, c'est l'objectif des 6 cantons concernés, Berne, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Soleure et Argovie, ainsi que l'Office fédéral de l'environnement. Mais comment ce processus fonctionne-t-il, Loïc Georgi?
Eh bien, l'une des pièces maîtresses de ce système est le barrage de Porte, puisqu'il agit sur le niveau des lacs et sur le débit de l'Ar. Les 5 vannes présentes sur le barrage permettent d'abaisser le niveau du lac afin qu'il puisse absorber un volume d'eau plus important, ce qui va avoir une influence directe sur les lacs de Neuchâtel et de Mora, puisqu'ils sont reliés par les canaux de la Thielle et de la Broye. En contrôlant les masses d'eau à la sortie du lac de Bienne, le barrage de Porte permet aussi de réduire les risques de crue de l'Ar en aval. Si le lac de Bienne est une pièce centrale de cet engrenage, c'est notamment car il recueille les eaux d'un quart de toute la surface de la Suisse.
Et justement, des travaux de correction ont eu lieu entre 1962 et 1973 pour permettre d'améliorer cette régulation. Des corrections qui avaient un but bien précis, Loïc.
Effectivement, le but était d'à tout prix éviter de nouvelles inondations comme en 2007. Mais pour ceci, il est primordial que la régulation des niveaux et des débits concilie les intérêts divergents des différents acteurs. Des questions doivent donc se poser, comme par exemple, faut-il inonder le canton d'Argovie pour éviter une crue du lac de Bienne? Et justement, ces 5 vannes du barrage de Porte sont réglées de façon à maintenir les variations des eaux dans des limites qui tiennent compte des exigences au niveau des lacs de Bienne, de Neuchâtel, de Mora et du débit de l'Ar en aval.
Voilà, et à la fin de la semaine dernière, les représentants des 6 cantons se sont concertés avec l'OFEV pour décider de continuer à augmenter le débit de l'Ar à la sortie du lac de Bienne. L'objectif était de créer de la place dans les 3 lacs en cas de nouvelles précipitations. Un alpiniste de 37 ans a perdu la vie hier matin à Bourg-Saint-Pierre en Valais alors qu'il redescendait du combin de Val-Sorel. L'homme a chuté puis glissé sur environ 250 mètres. Son compagnon de course a avisé les secours. Une instruction a été ouverte par le ministère public. Le débat autour de la vaccination du personnel de santé se poursuit en Suisse. Si elle la recommande, l'Association suisse des infirmières et infirmiers refuse toute obligation ou stigmatisation. Dans un communiqué publié ce matin, l'association souligne que même si la vaccination est la meilleure option pour se protéger et protéger les autres et pour maîtriser la pandémie, la rendre obligatoire n'est en revanche pas la bonne voie à suivre. Ce serait même contre-productif, selon l'ASI. Et puis en Allemagne, Angela Merkel s'est dite ce matin inquiète de la dynamique exponentielle des nouvelles infections au Covid-19, notamment en raison de la progression du variant Delta. La chancelière a exhorté la population à se faire vacciner. Et puis la pandémie de coronavirus aura un impact à long terme sur la santé mentale des populations. C'est ce qu'a averti aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. De l'anxiété liée à la transmission du virus, à l'impact psychologique des confinements, en passant par les conséquences liées au chômage, aux difficultés financières et à l'exclusion sociale. Tout le monde est affecté d'une manière ou d'une autre, estime l'OMS dans un communiqué.
Vous écoutez RFJ, les 12h26.
Sport. Et le grand coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo aura lieu demain, 13h, heure suisse, avec la cérémonie d'ouverture. Notre pays sera représenté par 116 athlètes. Et on sait désormais qui portera le drapeau helvétique à cette occasion. Il s'agit de la sprinteuse Mujinga Kambunji et de l'épéiste Max Heinzer. Tous deux ont été désignés par Suisse Olympique, selon un communiqué publié ce matin. La manifestation qui revient de loin, il faut dire que la pandémie de coronavirus avait contraint les organisateurs à repousser ces joutes d'une année. Une pandémie qui pèse encore de tout son poids sur le déroulement des événements. Émilie Mumenthaler est notre envoyée spéciale à ces JO de Tokyo depuis son hôtel en quarantaine. Elle nous explique les contraintes auxquelles doivent faire face les journalistes sur place.
Des Jeux Olympiques, ça se prépare et cette édition à Tokyo encore plus. La presse a reçu il y a plusieurs mois un manuel explicatif sur ce qu'elle ose et surtout n'ose pas faire. Ce playbook de 70 pages en anglais en est à sa troisième version. Les journalistes sont déjà censés limiter leurs interactions sociales et être attentifs à leur état de santé 2 semaines avant le départ. Ensuite, pour entrer sur le sol japonais, 2 tests PCR sont requis. Un réalisé dans les 96 heures et un autre dans les 72 heures avant le décollage. Et après un vol de 11h30, il faut encore faire preuve de patience avant de rallier son hôtel. L'accueil est cordial, mais il faut compter près de 6 heures pour quitter l'aéroport. Entre les multiples contrôles administratifs, le test salivaire et l'attente qui ponctue chaque étape. Une fois le feu vert reçu, le séjour commence par 3 jours de quarantaine où seule une sortie quotidienne de 15 minutes est autorisée, avec un test de dépistage chaque jour. Ensuite, durant les 14 premiers jours sur place, les journalistes n'ont pas accès aux transports publics et ils ne peuvent pas manger au restaurant ni se rendre dans un magasin non essentiel et ils doivent se faire tester régulièrement. Difficile, dans ces conditions, de ne pas avoir le spleen dans sa chambre de 11 mètres carrés, densification oblige. Mais la flamme va à coup sûr renaître dès les premiers pas sur les lieux de compétition. Ces JO ont déjà fait couler beaucoup d'encre, mais il ne faut pas oublier qu'il reste encore les plus belles pages à en écrire. Il faut espérer que ce sont les athlètes qui auront le dernier mot.
Voilà, bon courage Émilie, c'est les dernières heures de quarantaine pour vous. Vous êtes notre envoyée spéciale à Tokyo durant ces Jeux. On vous retrouvera bien sûr pour vous faire vivre cette manifestation au plus près. Et puis la cascade de forfaits continue aux JO de Tokyo. Le champion d'Europe de 400 mètres nage, Ilia Borodin, est forfait après un test positif au Covid. Le Russe était candidat à une médaille. En revanche, le double champion olympique de natation, Oussama Melouli, s'alignera finalement sur le 10 km en eau libre. Forfait dans un premier temps en raison d'un conflit avec sa fédération, le nageur tunisien est revenu sur sa décision après discussion entre les deux parties. Deux clubs suisses en quête d'une qualification pour la nouvelle Ligue Europa Conférence de football. Servette se déplace dès 18h sur la pelouse des Norvégiens de Molde en match aller du deuxième tour qualificatif. Plus tard dans la soirée, le FC Bâle reçoit les Albanais du Partizani Tirana à 20h15. Les matchs retour auront lieu dans une semaine. Et puis un nouveau report de match pour la première journée de Challenge League de football qui s'ouvre demain. La rencontre entre Thun et Yverdon a aussi été renvoyé après le test positif d'un joueur bernois. Toute l'équipe de Thun a été placée en quarantaine. Chafouz Kriens et Xamax Haro avaient déjà été reportés en raison du Covid et des inondations à Neuchâtel. Il est 12h30 sur RFJ, la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi.
Merci à vous Alexandre Michler, on va tout de suite passer à la météo et ce sera déjà la fin de Parfum d'été. C'est toujours du soleil en toute région avec le développement de cumulus sur les franches montagnes au fil des heures, mais un temps qui restera sec. Voilà ce que nous annonce Météo News pour la suite avec des températures comprises aujourd'hui entre 24 et 27 degrés. Demain, eh bien, ce sera la persistance de ces conditions bien ensoleillées avec le passage de quelques voiles d'altitude, notamment l'après-midi. Comme aujourd'hui, il y aura le développement de cumulus au fil des heures, mais le temps restera sec et le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés aux franches montagnes et 29 en pleine.